Chapitre 5. S'organiser. Sauvegarder ses actifs en vue d'une utilisation future. Soyez réglé dans votre vie et ordinaire comme un bourgeois afin d'être violent et original dans vos œuvres. Gustave Flaubert. Twyla Sorp est l'une des chorégraphes les plus célébrées et inventives de notre époque. Son œuvre inclut plus de 160 réalisations, dont 129 chorégraphies, 12 numéros spéciaux pour la télévision, 6 films d'Hollywood d'importance, 4 ballets, 4 spectacles pour Broadway et 2 numéros de patinage artistique. A priori, l'on pourrait se dire que la danse est l'un des moyens d'expression artistique qui se prête le moins à l'organisation. Elle se joue en direct, essentiellement au moyen de son corps, et semble spontanée et improvisée. Malgré tout, dans son livre « Le réflexe créatif », Sorp révèle qu'au cœur du processus qui a propulsé sa carrière incroyablement prolifique durant une soixantaine d'années, se cache une simple technique d'organisation. Elle appelle cette approche « la boîte ». Chaque fois qu'elle lance un nouveau projet, elle prend une boîte de rangement pliable sur laquelle elle appose une étiquette autocollante avec le nom du projet, en général celui de la chorégraphie qu'elle travaille. Avec ce geste, elle pose un premier jalon, comme elle l'explique. « La boîte me donne le sentiment d'être organisée et préparée alors même que je ne sais pas encore où je vais. Elle représente aussi un engagement. » Le simple fait de l'avoir étiqueté avec le nom du projet signifie qu'il est lancé. Dans ce chaudron d'énergie créative, elle déverse tout ce qui peut être lié de près ou de loin au projet. Chaque fois qu'elle trouve un nouvel élément, des carnets de notes, des coupures de presse, des CD, des vidéos de moi dansant seul dans mon studio ou de danseurs qui répètent, des livres, des photographies ou des œuvres d'art qui m'ont inspiré. Elle sait où le stocker. Ce qui signifie qu'à chaque fois qu'elle travaille sur son projet, elle sait aussi exactement où regarder. Dans la boîte. Dans son livre, elle relate l'histoire d'un projet particulier pour lequel la boîte a joué un rôle essentiel. Une collaboration avec l'icône pop-rock Billy Joel pour monter un spectacle de danse autour d'une sélection de ses chansons. L'idée, à mi-chemin entre le concert et la comédie musicale, tout en se démarquant de ces deux formes de représentation, était audacieuse. Et la façon dont les personnages des différentes chansons, chacune écrite indépendamment des autres, pouvaient être intégrés dans un seul récit. Pas évidente. Mais même un projet aussi flou que celui-ci avait débuté comme les autres, avec un but. Je crois qu'il faut commencer chaque projet en se fixant un objectif. Parfois, ce n'est rien d'autre qu'un mantra personnel tel que « rester simple » ou « quelque chose de parfait » ou « économie » qui me sert à me rappeler mon objectif initial si et quand je m'égare. Je le note sur un bout de papier et c'est la première chose qui va dans la boîte. Pour cette collaboration avec Joël, Sorp avait deux objectifs. Le premier était de comprendre et de maîtriser le rôle que joue la narration dans la danse, un défi créatif qui suscitait son intérêt depuis longtemps. Le second était, nettement plus terre-à-terre, mais tout aussi motivant, arriver à bien payer ses danseurs. J'ai donc noté sur deux bristoles bleues mes objectifs pour ce projet, explique-t-elle. Raconter une histoire et faire en sorte que la danse paye. Et je les ai regardés sombrer au fond de la boîte. À présent que j'écris, ils y sont encore, recouverts par des mois et des mois de recherche, telle une encre qui me connecte à mon impulsion originale. Après cela, toutes les recherches et toutes les idées susceptibles d'alimenter le projet ont été déposées dans la boîte. Des clips musicaux, des listes de chansons de Billy Joel et des notes à leurs propos, des spectacles vivants, des conférences, des photographies, des coupures de presse. Il y avait aussi des images d'actualité et des films sur la guerre du Vietnam, des livres importants sur cette période et même des documents provenant d'autres boîtes, y compris des recherches associées à un projet abandonné. Ces artefacts compilés par la chorégraphe n'étaient pas juste pour elle, ils sont devenus des étincelles d'inspiration pour son équipe. Une paire de boucles d'oreilles et un gilet en macramé à l'attention de la costumière. Des ouvrages sur des événements avec des jeux de lumière psychédéliques pour inspirer le concepteur lumière. Des photographies d'autres spectacles et de la maison d'enfance de Billy Joel à Long Island pour nourrir des discussions avec le concepteur artistique. Tout ce matériau brut a fini par remplir 12 boîtes. Ce qui ne veut pas pour autant dire que Sorp n'a pas contribué au projet avec sa propre créativité. Par exemple, quand elle a découvert un ensemble de notes sur l'une des premières chansons de Joel, « She's Got Away », empreinte d'innocence et de douceur, elle a décidé d'en changer la signification. « Dans mes notes, écrit-elle, on peut voir la balade se transformer en quelque chose de plus dur pour finir par devenir deux scènes de bar sordides simultanées, l'une au Vietnam, l'autre au pays. Je me suis senti obligé d'en parler à Billy, en le prévenant que ça allait détruire sa chanson, mais il ne s'en est pas inquiété. « Vas-y », m'a-t-il dit. À plusieurs titres, les boîtes de Twyla ont grandement contribué à son parcours créatif. Elles lui ont donné le sentiment de sécurité nécessaire pour s'aventurer à prendre des risques. Pour moi, une boîte est comme du terreau. C'est basique, terreux, élémentaire. C'est chez moi, c'est ce vers quoi je peux toujours retourner quand j'ai besoin de me ressaisir et de retrouver mes repères. Le fait de savoir que la boîte est toujours là me donne la liberté de m'aventurer, d'être audacieuse, d'oser me casser la figure. Elle lui donnait ainsi la liberté d'aller de l'avant. Grâce à la boîte, je ne craignais jamais d'oublier quelque chose. L'une des plus grandes peurs des créatifs est de perdre une idée brillante parce qu'on a omis de la noter et de la mettre en lieu sûr. Moi, je ne m'inquiète pas de cela car je sais où la trouver. Tout est dans la boîte. Avec ce système, elle a aussi pu garder des projets en attente. La boîte me permet de me sentir connecté à un projet, même lorsque je l'ai mise en veilleuse. J'ai peut-être rangé la boîte sur une étagère, mais je sais qu'elle est là. L'étiquette avec le nom du projet inscrit en caractère noir gras me rappelle sans cesse que j'ai eu une idée et que je pourrais revenir dessus très prochainement. Enfin, la boîte offre un autre avantage. Elle permet de se retourner sur ce que l'on a fait. Beaucoup de gens n'en voient pas l'intérêt. Quand ils en ont fini avec un projet, ils sont soulagés. Ils sont prêts à faire une pause avant de se lancer dans une nouvelle aventure créative. Mais la boîte donne l'opportunité de réfléchir à votre performance passée. En fouillant dedans, vous ferez apparaître les prémices d'un projet, ce qui peut être instructif. Comment avez-vous fait? Avez-vous atteint votre objectif? Avez-vous fait mieux? Le projet a-t-il évolué en cours de route? Auriez-vous pu le réaliser plus efficacement? La boîte de Sorp révèle la vraie nature d'un simple contenant. Il est facile à utiliser, à comprendre, à créer et à entretenir. Il peut être déplacé d'un endroit à un autre sans que son contenu s'éparpille. Il est aussi facile à identifier, à partager avec autrui et à stocker une fois que l'on n'en a plus besoin. Inutile donc de s'encombrer de systèmes complexes et hautement sophistiqués pour produire des travaux eux-mêmes complexes et sophistiqués. L'effet cathédrale. Concevoir un espace pour vos idées. Pensez au temps que nous passons à concevoir et à arranger notre environnement physique. Nous achetons de beaux meubles, débattons durant des semaines de la couleur des murs et remanions régulièrement la disposition des plantes et des livres. Nous savons que les éclairages, la température et l'agencement de l'espace ont un impact significatif sur la manière dont nous nous sentons et dont nous réfléchissons. Des études ont montré que notre environnement façonne puissamment notre manière de penser. Ainsi, lorsque nous sommes dans un espace haut de plafond, pensez à l'architecture des églises classiques qui évoque la grandeur des cieux, nous avons tendance à penser de façon plus abstraite. Ce phénomène porte un nom. On l'appelle l'effet cathédrale. À l'inverse, dans une pièce basse de plafond, comme dans un petit atelier, nous sommes plus enclins à penser de façon concrète. Personne ne remet en cause l'importance de disposer d'espaces physiques permettant de se sentir calme et centré. Mais il est probable que vous avez consacré peu de temps, voire aucun, à aménager votre espace de travail numérique pour maximiser votre productivité ou votre créativité, alors qu'en tant que travailleurs du savoir, nous passons de nombreuses heures chaque jour immergés dans ce type d'environnement, notamment via nos ordinateurs, nos smartphones et Internet. Si vous ne prenez pas le contrôle de ces espaces virtuels et ne les façonnez pas de manière qu'ils favorisent le genre de réflexion que vous souhaitez mener, chaque minute que vous y passerez vous semblera pénible et sera propice à la déconcentration. Votre second cerveau n'est pas juste un outil, c'est un environnement. C'est un jardin de savoir plein d'allées qui serpentent, mais aussi de recoins secrets et cachés au regard. Chaque allée mène à de nouvelles idées et perspectives. Ces lieux sont peut-être naturels, mais ils ne sont pas là par accident. Pour qu'ils existent, il faut qu'un jardinier sélectionne et entretienne les plantes, arrache les mauvaises herbes et donne forme au chemin qui les sillonne. Il est donc temps de prêter davantage attention aux environnements numériques dans lesquels nous sommes plongés une bonne partie de notre journée. Une fois que vous aurez créé cet environnement, vous saurez où aller quand vient le moment de démarrer un projet ou de le mettre à exécution. Vous n'aurez pas à perdre une demi-heure à rassembler péniblement tout le matériau dont vous avez besoin pour vous lancer. Votre second cerveau est comme une cathédrale mentale où pénétrer chaque fois que vous aurez envie de vous isoler du monde extérieur pour imaginer le vôtre. La prochaine étape dans la construction de votre second cerveau est de rassembler les bribes d'idées que vous avez commencé de capter et de les organiser dans un espace où vous pourrez pleinement développer votre pensée. S'organiser pour agir. Là où 99% de ceux qui prennent des notes restent coincés, et comment s'en sortir? Dès que vous vous mettrez à capter des idées avec méthode, vous commencerez à percevoir différemment le flux d'informations dans lequel vous baignez. Vous ferez davantage attention aux livres que vous lisez, à vos conversations et aux entretiens que vous écoutez, confiant que vous serez en mesure de sauvegarder et d'utiliser chaque réflexion intéressante croisée. Vous n'aurez plus à prier pour ne pas oublier telle ou telle idée excellente. Vous saurez que cela ne se produira pas. Sous peu, cependant, vous serez confronté à un nouvel écueil. Qu'allez-vous faire de tout ce précieux matériau que vous aurez accumulé? Plus vous aurez fait preuve de diligence dans votre collecte, plus votre problème sera conséquent. Notez des informations, sans les organiser de manière à y avoir aisément accès plus tard, ne fera que renforcer votre sentiment de submersion. J'ai passé des années à expérimenter différentes manières de résoudre cette question d'organisation. J'ai essayé des techniques empruntées au monde physique, testé tous les carnets de notes spécialement formatés possibles et imaginables, répliqué la classification décimale de Dewey, des bibliothécaires, tenter de ranger mes fichiers par date, par sujet, par genre, et selon bien d'autres catégories complexes, mais toujours en vain. En fait, aucun de ces systèmes n'était intégré à ma vie quotidienne. Ils exigeaient de moi que je suive une série de règles compliquées qui me prenaient du temps et détournaient mon attention de mes autres priorités. En conséquence, ils devenaient rapidement dépassés et obsolètes. Chaque fois que j'accumulais du retard dans mes classements, je recommençais à rassembler toutes mes notes et mes fichiers pêle-mêle dans le dossier du projet qui m'occupait sur le moment. Bon, au moins, tout était réuni au même endroit sans que j'aie besoin d'étiqueter chaque information, de la ranger ou de l'associer à des mots-clés. Jusqu'au jour où ça a fait tilt dans ma tête. Pourquoi n'organiserais-je pas tout simplement mes dossiers ainsi? Si cette façon de faire me venait naturellement avec un minimum d'effort, pourquoi ne pas en faire ma méthode de classement par défaut? C'est ce que j'ai fait. Et à ma grande surprise, cela a marché. Avec le temps, j'ai affiné, simplifié et testé cette approche auprès de milliers d'étudiants et d'abonnés. J'ai fini par baptiser ce système d'organisation « Para », qui est aussi l'acronyme des quatre catégories d'informations universelles que sont Projects, Areas, Resources et Archives. Projets, domaines, ressources et archives. Celle-ci inclut n'importe quel type d'information, issue de n'importe quelle source, dans n'importe quel format et pour n'importe quel objectif. Étant donné que Para organise l'information selon son degré d'exploitabilité, et non pas selon sa nature, il fonctionne dans tous les cas, indépendamment de votre profession ou de votre domaine de compétences. Au lieu d'avoir à classer vos notes en fonction d'une hiérarchie complexe de sujets et de sous-sujets, vous n'avez qu'une question à vous poser. Pour quel projet cette information me sera-t-elle la plus utile? Cela ne suppose que deux choses. D'une part, que vous travailliez simultanément sur plusieurs projets. D'autre part, que vous souhaitiez que l'organisation de vos informations contribue à les alimenter. Par exemple, imaginons que vous tombiez sur un article sur la résilience et que vous décidiez de le sauvegarder dans vos notes. Vous êtes certain qu'un jour ou l'autre, cette information vous sera utile, mais beaucoup moins de l'endroit où la stocker. Comment savoir où chercher la prochaine fois que vous en aurez besoin? Ce genre de décision peut vite devenir anxiogène compte tenu du risque de se tromper dans son classement. La plupart d'entre nous sauvegarderaient cet article dans un dossier étiqueté « psychologie », un choix qui semble logique. Sauf que ce terme est bien trop vague. Imaginez votre moi futur dans quelques semaines ou quelques mois. Au beau milieu de votre journée de travail, combien de temps pourrez-vous vous permettre de perdre à fouiller dans vos documents à la recherche de l'information désirée? Vous devrez peut-être passer en revue des dizaines de notes sur des articles, des livres et d'autres ressources, la plupart pas du tout utiles dans l'immédiat. Heureusement, il existe une autre façon de faire. Je vais vous montrer comment prendre des notes et les sauvegarder en vue de leur mise en œuvre. En faisant le petit effort supplémentaire de ranger chaque information dans un dossier dédié à un projet bien spécifique ou de la taguer, comme celui que vous aurez créé en vue de la rédaction d'un article sur la psychologie ou d'une présentation, vous retrouverez l'idée sauvegardée au bon moment, lorsqu'elle vous sera utile, ni avant ni après. Si votre note n'a d'intérêt pour aucun de vos projets en cours, vous aurez tout de même d'autres options pour la classer, notamment dans un des domaines de votre vie dont vous êtes responsable, ou dans la catégorie « ressources » qui vous servira de bibliothèque personnelle de référence, de fait et d'inspiration. Au fil du temps, à mesure que vous réaliserez vos projets, que vous maîtriserez de nouvelles compétences et que vous progresserez vers vos objectifs, vous vous rendrez compte que certaines notes et ressources ne vous sont plus utiles. Je vous montrerai comment les transférer dans vos archives, pour qu'elles soient hors de vue mais à portée de main. Au lieu de consacrer une part non négligeable de votre temps à ordonner votre monde numérique, Para vous aide ainsi à rapidement organiser vos idées en fonction du seul critère qui importe, vos objectifs. Surtout, en matière d'organisation, ne cédez pas à la tentation du perfectionnisme. Mettre de l'ordre est intrinsèquement satisfaisant et vous pouvez avoir vite fait de vous arrêter là au lieu de développer et de partager votre savoir. Faites également attention à ne pas trop accumuler d'informations au risque de passer votre temps à les gérer au lieu de vous en servir dans le monde réel. Comme aucune plateforme ne peut faire avancer vos projets à elle seule, vous aurez toujours besoin d'en utiliser plusieurs. L'objectif de Para n'est donc pas d'arriver à tout concentrer sur un outil, mais de vous permettre de développer un système d'organisation identique sur toutes les plateformes dont vous vous servirez au cours de la journée. Ainsi, que vous utilisiez une application de prise de notes, le système de classement de dossiers de votre ordinateur ou un espace de stockage dans le cloud, avec Para, votre monde numérique sera parfaitement fluide et vous pourrez passer d'une plateforme à l'autre sans perdre le fil de vos idées. De plus, en structurant vos notes et vos fichiers autour de vos projets courants, vos connaissances vous accompagneront dans votre travail au lieu de prendre la poussière dans un cimetière à idées. La promesse de Para est de transformer l'effort herculéen et sans fin que représente le fait de s'organiser en une tâche simple, à laquelle vous n'aurez plus à repenser une fois menée à bien, pour pouvoir vous consacrer à un travail plus important.